Cube Radio.
Pèse sur Start, en effet. Bonjour, bonsoir tout le monde, ici André Péloquin et bienvenue à un autre épisode de votre balado préféré de Nouvelles Geek et Gaming et de débat. Pèse sur Start, je suis en compagnie de Kasi Sharp. Bonjour Kasi.
Allô, je vais essayer de pas tousser.
Oui, alors parce que pour les gens qui écoutaient notre épisode de la semaine dernière, Kasi se remet d'une sévère toux et là on est à une moitié de toux. Est-ce que c'est le virus Corona, comme on dit?
C'est le virus Bud Light.
Ah, OK. C'est un peu moins pire. Il descend mieux dans la gorge. Et nous sommes aussi en compagnie, en direct de Québec, avec Raphaël Lavoie. Bonjour, Raphaël.
Salut, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Raphaël, on va vous en parler dans quelques instants, va nous livrer un dossier très très chaud et viril et hot ce soir.
Oui, absolument. Écoute, je suis en tchèche chez nous en ce moment. Donc,
yes, on va s'en parler dans quelques instants. Alors, pour les gens que c'est leur premier épisode de Pèse sur Start, qu'ils écoutent en balado sur la plateforme Cube ou autre comme Google, Apple, Stitcher et compagnie, eh bien, nous sommes une balado de nouvelles geek et gaming. On enregistre en direct les mercredis vers 18h30 sur notre chaîne Twitch, le twitch.tv/pèse sur Start. Pour les gens qui se demandent, mais là, soit je l'écoute en balado, soit je l'écoute sur Twitch. Sur Twitch, c'est un peu plus hors de contrôle et long et il y a des vulgarités qui se glissent là-dedans et du contenu que des avocats pourraient nous reprocher. Alors, on le coupe au montage en podcast par la suite. Et comme là, on peut l'entendre, c'est le Untitled Goose lui-même qui est dans la cabine avec notre réalisateur Philippe Séguin. Bonsoir, Philippe. Philippe est une oie maintenant, lui. Une oie qui fait du trouble dans son village français. On va plonger dans le vif du sujet. À chaque semaine, on essaie de vous poser une question qui va créer un débat, que ce soit en ligne sur Twitch ou encore lorsque vous allez écouter le podcast, on vous invite à vous interroger là-dessus. Ce week-end, c'est le Super Bowl. Mangeons des wings, faisons semblant d'aimer le football une fois par année. Évidemment, il y a des gens qui écoutent le football à l'année longue, mais on s'entend que le grand public, hein? Come on, ils veulent voir des pubs, le spectacle de la mi-temps et qui va gagner. Et ils se permettent de s'empiffrer aussi. Du moins, c'est mon cas. Alors, justement, Raphaël, tu nous as préparé de quoi en lien avec cette grande fête du football?
Je me suis lancé cet après-midi dans l'historique des jeux de football depuis, pas depuis la nuit des temps, mais depuis la nuit de l'Atari. C'est toute une aventure.
Excellent. Alors, on va nous livrer ce grand dossier-là en deuxième partie d'émission. Avant, je vous lance la question dès maintenant. En lien avec le Super Bowl et cette fête de l'exploit physique, on se demandait quel est votre plus grand exploit de gamer? T'sais, c'est quoi votre Super Bowl à vous? Est-ce que vous avez battu tel boss qui était compliqué? Est-ce que vous avez battu l'Atma Weapon à Final Fantasy ou mis la main sur Knights of the Round? Est-ce que vous avez déjà battu Steph Harvey lors d'un tournoi de e-sport? Pensez-y, c'est le moment de se vanter, là. Allez-y. Mais avant, place aux nouvelles avec ce nouveau segment qui s'appelle quasiment de l'actualité. Segment qui a déjà son thème musical. Kasi, peux-tu nous parler un peu de la genèse entourant ce thème musical pour ton volet là?
Oui, c'est ça. Dans le fond, on vous a fait voter sur Facebook pour votre thème préféré.
Sur la page Facebook de Pèse sur Start, pour les gens qui ne la suivent pas encore.
Et vous avez voté pour le troisième extrait. Je suis bien contente parce que c'est celui que je préférais aussi. Je pense que vous avez su me rendre hommage.
Excellent. Alors, tout le monde est content et histoire de continuer dans le bonheur. Kasi, de quoi tu vas nous parler cette semaine?
J'ai une histoire touchante pour commencer.
Ah, oui!
Une histoire touchante mettant en vedette un Twitcher de Fortnite et un joueur, c'est un joueur pro aussi de Fortnite.
OK.
Donc, les joueurs pros, souvent, ils ont aussi des chaînes Twitch, Mixer, etc. pour continuer à faire de l'argent quand ils sont en off-season, mettons, on va dire. Puis c'est très payant pour eux, hein? On s'entend que les joueurs pros sont capables d'amasser beaucoup de followers à cause que c'est un exploit sportif rendu là.
Oui.
Dont le beau Aiden, qui est un jeune streamer, joueur pro, qui a 1,4 million, je pense, de followers sur Twitch.
Mon doux seigneur.
Je sais pas combien d'entre eux sont abonnés, mais s'ils sont abonnés, ça doit être très payant. Bref, c'est tellement payant qu'il a gardé une belle surprise pour sa mère.
Pour sa mère?
Pour sa mère, il a décidé de payer les dettes scolaires de sa mère.
Oh mon Dieu!
Les dettes étudiantes de sa mère. On ne sait pas c'est combien. On ne sait pas si ça s'élève à combien. On a cherché, on n'a pas trouvé le montant, mais c'est aux États-Unis. Hein, fait qu'on s'entend que c'est pas,
ouais,
c'est pas 100 piastres.
Non, 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 non.
Et puis, on a le moment où il apprend à sa mère qu'il a avancé en don Twitch le montant.
Wow.
On a un clip audio. On va faire écouter ça. La réaction de sa mère, c'est adorable.
I don't need anything, Aiden.
Well, I mean,
you've done enough for me.
I mean, it's too late, Mom. Your all of your school loans are already paid for.
No, they're not, because you can't. It's on a federal loan. You can't. I don't think you can touch that stuff at all, Aiden.
I already talked to Lena. It's already done.
What?
Your school loans are all paid for. You don't have to worry about them.
Wait a minute. How do you know her name?
Because I do.
Wait a minute.
C'est quelqu'un qui pleure.
My son is paid off all my school.
Et puis là, on voit aussi Aiden qui est lui aussi le moton en écoutant sa maman pleurer. Ce que vous pouvez peut-être comprendre dans le clip, c'est qu'au début, sa maman ne croit pas. Elle dit, je pense pas que tu peux payer ça. C'est pas un prêt fédéral. Tu peux pas payer ça. Puis là, il dit un mot magique. Il dit un prénom qu'elle reconnaît, que lui devrait pas connaître, qui était peut-être quelqu'un qui gérait les comptes de,
ouais,
de maman. Et c'était le mot magique parce qu'elle l'a cru en maudit.
C'est ça.
Donc,
aussi à souligner, je m'excuse de t'interrompre, oui, c'est que aussi avant de parler de ça, du niveau fédéral et tout ça, elle lui dit comme j'ai besoin de rien aussi.
C'est ça, j'ai juste besoin de mon fils qui m'aime. C'est une réaction de maman. Nos parents, ils disent toute la même chose tout le temps, mais c'est le fun d'égater quand on peut.
Oui.
Vraiment un très beau moment. Allez voir sur paysocial.com le reste de l'histoire, si vous voulez voir le clip aussi, vous voir le beau moment entre Aiden et sa maman. C'est magnifique, ça l'a fait tout le tour du web cette semaine, puis c'est une bonne nouvelle, on en a besoin.
Ben oui, je suis attendri vraiment, et non seulement c'est une bonne nouvelle pour la maman en question, mais c'est aussi un bel effort de groupe, c'est grâce à des dons de la communauté de gamers, c'est grâce à des dons de fans de Fortnite qu'on s'est, ouais, rendu là, c'est comme ben bravo groupe, écoutez, on peut se taper sur l'épaule tous ensemble, bravo les gamers, on a fait quelque chose de bien cette semaine.
Il y a vraiment des belles choses qui se font sur Twitch en termes de dons, là on parle aussi les levées de fonds pour la recherche pour le cancer, des trucs comme ça.
Pour l'Australie aussi.
Oui, pour l'Australie. Les speedruns aussi, No Reset, c'est un bel exemple.
Ouais.
Donc, Twitch, les dons, ça peut aller très, très loin. Ça peut aller beaucoup plus loin que je cherche une carte graphique. Tu sais, ça peut aller...
Totalement.
Je veux sauver le monde. Donc, continuez à donner généreusement puis abonnez-vous à Pain sur Start.
J'allais juste avant dire, comme ça serait vraiment opportuniste de mentionner notre chaîne Pain sur Start, passons dès maintenant à une autre nouvelle dans le sac à nouvelles de Casey Sharp.
Dans mon sac à nouvelles, chuc, 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 chuc. Je sors une nouvelle écrite par Raphaël.
Oh!
Allô, Raph.
Allô.
God of War, quelque chose de God of War sur Netflix, peu importe, mettons le format. Est-ce que ça vous intéresse?
Ben oui, pourquoi pas?
Moi, ça m'allume beaucoup. Parce que, ben, Kratos est malade, là, il est écœurant.
Mm-hmm.
Puis, je pense que quand on a vu 300, on a eu comme un peu une dose de ça. Tu sais, on s'est dit comme, Moi, je pense que Gérard Butler serait quand même pas pire là-dedans.
Ah oui, on ramène Gérard Butler, puis on le rase, puis... Ah, peut-être.
Mais tu sais, il a fait tellement de chick flicks depuis que peut-être que non, mais tu sais, dans le temps quand il a joué Leonidas, là, on le dit comme...
Oui, il y avait, ouais.
Il était très Greek God.
Oui, oui. Tourné à Montréal, d'ailleurs.
Ah ouais.
Oui.
Dans nos plaines...
Je sais pas, dans un studio...
Dans un studio, c'est
ça,
comme dans un garage.
Ouais, c'était du green screen all the way, on s'entend.
Dont les pectoraux, dessinés.
Fait que mine de rien, les pectoraux de Gerald Butler sont un peu locaux. Ils ont été entraînés à Montréal, notamment. En tout cas, je sais pas s'il a commencé là,
ils ont été airbrushés à Montréal.
Mais ça a continué ici. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour une boîte d'une certaine productrice, Anne-Marie Lozic. Et on a fait un reportage sur 300, et elle tenait vraiment ce qu'on rencontre, cet entraîneur-là, pour nous parler de la routine de Gerald Butler, et bien évidemment, le monsieur, on l'a retrouvé, puis il est comme, il s'entraînait beaucoup, puis il travaillait beaucoup ses pectoraux, puis ses abdominaux, et c'était un reportage, ma foi, qui a traversé l'espace-temps, hein, de retour à Casey.
De la façon qu'on a su que c'était pas nécessairement dans les plans, mais que c'était une possibilité qu'il y ait un projet God of War sur Netflix éventuellement, c'est à cause d'un tweet de Games Industry, qui est un compte qu'on suit tous un peu sur Twitter, qui posait la question, quel IP devrait se prêter à une série Netflix?
Mm-hmm.
Le papa de Kratos.
Zeus?
Oui, Zeus. Ben, c'est plutôt Corey Barlog, là.
Ah, d'accord.
Créateur, c'est le papa de God of War. Il a dit God of War. C'était ça sa réponse dans un tweet. Puis en parenthèse, en tout cas, je pense. Il a dû clarifier dans un prochain tweet, par contre, pour dire, à part ça, c'est pas une prédiction, c'est pas une prémonition, juste dire, ça serait le fun.
C'est un souhait,
c'est ça. C'est un souhait. Fait que ça l'a enflammé le web, cette histoire-là. À cause que, avec le succès de The Witcher, on commence à se poser des questions. Est-ce que le gaming est un bon, est-ce que les gamers sont un bon public? La réponse, c'est, qu'est-ce que tu penses?
Et voilà.
Qu'est-ce que tu penses? Donc, le succès du Witcher, c'est avec Toss a Coin to Your Witcher, c'est le verre d'oreille qui nous hante depuis des semaines.
En effet. Puis The Witcher, ça a un peu commencé aussi comme un vœu pieux, là. À l'origine, c'est l'acteur qui avait mentionné, je pense, sur Twitter ou Instagram ou une entrevue qui était un grand fan de la série puis qui se verrait bien jouer Geralt.
Moi, je le voyais pas en tout. Là,
t'avais fait un montage.
J'avais fait un montage, mais quand j'ai fait le montage, j'étais comme, OK, I get it, mais tu sais, c'est seulement par la magie de Photoshop parce que. Moi, depuis Superman, là, je lui pardonne pas grand-chose. Depuis qu'ils ont photoshopé, depuis qu'ils ont CGI'é...
Sa moustache.
Je fais plus confiance à rien mettant en vedette ce dude-là.
Henry Cavill. Un autre monsieur avec des incroyables abdos, d'ailleurs. Tu peux râper du fromage là-dessus. Mais ça, on sait pas si c'était une démarche un peu promotionnelle, mais vraiment, ça a commencé par « Hey, moi, j'aimerais ça jouer Geralt de Rivera ». Puis quelques mois plus tard, comme « Hey, on fait une série. Hey, ça va être vraiment lui qui va le faire. » En tout cas, la magie de j'aime croire que c'est la magie de l'Internet qui a fait que c'est arrivé.
Oui, puis, tu sais, God of War, ça pourrait être un peu dans le même feeling un peu que The Witcher. Tu sais, c'est mythique, étrange. Je pense que ça se prête beaucoup mieux qu'à une série qui serait, mettons, ultra réaliste dans genre Life is Strange ou des trucs comme ça.
Pitié.
Ben, réaliste.
Entre
guillemets, là, on va dire.
Ouais.
Réaliste entre guillemets, mettons, comme il n'y a pas vraiment de jeux qui sont super réalistes, peut-être sauf Truck Simulator. Là. Mais je pense que ça pourrait justement, à cause que on est tellement dans le fantastique, dans la mythologie grecque, je pense qu'on peut s'en permettre pas mal plus dans les excès, dans l'exagération. Fait que qui pourrait jouer Kratos, ça c'est place your bet. Les gens dans le chat, on veut savoir qui ferait un bon Kratos selon vous.
Très bonne idée, Kasi. Alors pour les gens qui nous regardent sur Twitch, on veut lire vos suggestions. On va continuer avec le sac actualité de Kasi, mais on revient avec vos suggestions avant la fin du segment de quasiment de l'actualité. Kasi, quoi d'autre? Éduque-nous, s'il te plaît.
Je vais vous éduquer tellement fort là. Bon, vous savez ce qui se passe en Chine en ce moment, un virus. Le coronavirus qui... Exactement.
C'est ce bruit-là qu'il fait,
c'est
d'ailleurs.
Exactement. Il y a eu un cas de confirmé au Canada, à Toronto. Certains cas qui sont douteux dans l'ensemble du pays. Donc, c'est quand même inquiétant. Mais faut pas virer fou. Faut pas virer fou avec les virus. Moi, j'aime ça virer fou avec ça, parce que je trouve ça le fun. De comme jouer les parano puis de rendre le monde parano autour de moi, puis je suis comme hey, virus, j'ai fait la même chose avec le SRAS. Mais bon, j'espère que ça va pas arriver ici, mais si vous voulez jouer la simulation de une pandémie, on va dire une pandémie.
Oh mon Dieu Seigneur.
Il y a le jeu Plague Inc. en ce moment qui est, ma foi, très populaire sur Internet, qui a comme il y a eu comme une ressurge de popularité pour cet excellent jeu. Sur Steam, mais aussi sur mobile. Les gens oublient souvent que Plague Inc., à la base, ben c'est un jeu mobile, dans le fond. Il y a la version Steam qui s'appelle Plague Inc. Evolved.
Mm-hmm.
C'est le même jeu, mais c'est la version desktop.
D'accord.
Personnellement, je préfère la version PC parce qu'il y a beaucoup plus d'options et c'est très, très drôle. Fait que je vais expliquer un peu c'est quoi le jeu.
S'il te plaît, oui.
Parce que j'y ai joué sur twitch.tv/paysurstart. Ce que vous faites, dans le fond, c'est que vous inventez comme un virus, une bactérie, quelque chose qui va être viral.
Attends, tu l'inventes?
Tu l'inventes.
Est-ce que tu peux donner des spécificités ou comme...
Oui, exactement.
Oh my God, je veux des détails.
Exactement. Moi, un virus que je fais souvent, c'est le virus qui s'appelle Jeff.
Okay.
J'ai un ami qui s'appelle Jeff.
D'accord.
Je trouve ça très drôle. Jeff est en train d'envahir la Corée. C'est très, très drôle.
D'accord.
Est-ce qu'il est très viral, ton ami?
Il est très viral. Pas dans la vraie vie, mais dans ses infections. Oui, c'est vraiment grave. Une fois que vous avez commencé dans, mettons, un pays d'origine pour le virus, vous pouvez définir des caractéristiques et aussi des caractéristiques, dans le fond, qui vont faire sa viralité.
Oh
donc, on peut l'attraper en toussant. L'eau est contaminée. Ça se passe à travers les animaux.
Oh mon Dieu!
Ça se passe à travers les maringouins, le sang, etc. Donc,
je suis un peu excité. Est-ce qu'on peut déterminer aussi les symptômes, comme tu craches du sang ou t'as la diarrhée à mort? Je peux faire un virus comme t'as la diarrhée jusqu'à temps que tu meurs?
Oui.
En tout cas, bref, c'est vraiment excitant. Fait que là, on peut vraiment, mon Dieu, créer son propre virus.
Tu peux choisir, c'est ça, il y a trois catégories. Tu peux choisir la viralité avec des points d'ADN, si vous allez voir. Ensuite, les symptômes. Les symptômes, c'est de ce que tu dis,
oh mon Dieu,
etc., qui peuvent aussi affecter la viralité. Et le troisième aspect, c'est genre de caractéristiques. Est-ce que c'est un virus qui est résistant au froid?
Résistant, oh my God!
Etc. Donc, il faut que tu sois stratégique parce que, mettons que ton virus se rend pas au Groenland, là.
Ouais.
Pourquoi il se rend pas au Groenland? Mais c'est peut-être parce qu'il est pas assez résistant au froid.
Uh-huh.
On a vu ça tantôt sur Twitch, donc.
Est-ce que c'est un peu un jeu de gestion, dans le fond? C'est que plus tu mets de points dans viralité, il va résister au froid, genre, faut que tu balances ça.
C'est 100% un jeu de gestion. C'est juste un jeu de gestion. Donc, c'est une simulation de gestion, etc. Et le but, c'est d'éradiquer, de combattre l'éradication de ta maladie.
OK.
Puis de tuer tout le monde.
Tabarnouche.
Mais tu sais, si tu tues tout le monde trop vite, bon, il restera plus de personnes infectées. Donc, plus personne pour infecter le reste des gens qui sont encore en santé. Il faut vraiment infecter tout le monde et ensuite tous les tuer. C'est très stratégique, c'est bien difficile. Mais je vous suggère, les gens à la maison, si vous voulez l'essayer, avant de l'acheter à 16$ sur Steam, téléchargez-le gratuitement sur Android ou iOS. C'est gratuit. Il y a des fonctions qui manquent quand même, mais c'est un bon tremplin pour savoir est-ce que c'est votre style de jeu. Parce que moi, je vous assure que depuis deux jours, je ne fais que regarder Glow à la télévision et jouer à Plague en même temps.
OK. Je me demandais, il était où le lien avec la lutte, mais là, tu me rassures. D'accord.
C'est ça. Je regarde Glow, puis j'infecte tout le monde. C'est magnifique. C'est surtout avec ma toux, hein, avec ma toux récurrente. C'est vraiment magnifique.
Fait que il y a même une version Flash.
Ah oui, en
sur
plus.
Internet, ouais. Ouais. Je sais pas si c'est sur Miniclip ou Congregate ou quelque chose comme ça, mais
c'est vraiment un petit projet, hein, ce jeu-là. C'est un petit projet qui a explosé en viralité ces derniers temps. On le voit partout. Tout le monde sur Twitch est en train de jouer. Il y a des memes qui ressortent sur Reddit. Vraiment, si vous voulez faire partie d'un meme du moment, puis faire partie de la gang des Yo les jeunes, je connais vos blagues. Allez chercher Plague Inc. Vous allez être cool.
Mon Dieu Seigneur, on se sent mal, mais comme bravo le virus! Quasi, est-ce que tu as d'autres actualités dans ton sachet?
J'ai une dernière petite nouvelle rapide que je veux juste mentionner parce que je trouve ça très, très cool.
Allons-y.
Puis ça vient de quelqu'un que j'aime pas tant.
Oh!
C'est quand même, on démontre de l'ouverture et de.
Fait que c'est pas ton ami Jeff, là.
C'est pas mon ami Jeff. Non, effectivement, on a Jeff qui est un virus. On va parler d'Eli Roth. Rapidement. Eli Roth, c'est pas le dude préféré de beaucoup de monde, je pense. Mais quand même, c'est fan. Juste pour vous rappeler un peu, c'est qui Eli Roth? C'est un producteur, réalisateur, acteur de films d'horreur surtout.
Ouais, la série Hostel, c'est ça?
La série Hostel et tout récemment aussi le film Green Inferno.
Ouais.
Qu'on vous rappelle que Joe Fantasia qui avait causé beaucoup de réactions.
Ah oui? Comment ça?
Lors des festivals, dans sa tournée des festivals, je pense à Cannes aussi. En tout cas, il y a des gens qui sortaient pour être malades.
Parce que c'est trop gore, ça?
On parle d'un cannibale holocauste 2.0.
OK, ouais.
Donc, j'essaie de plugger ce film-là au moins une fois par podcast.
C'est arrivé vraiment. Je vais avec le recul, là, puis oui, c'est arrivé.
Mais là, c'est pas trop far-fetched.
Non, quand même.
On dit que c'est une suite spirituelle beaucoup plus gore, en tout cas. Donc, Eli Roth, maître du gore, mais il prépare quelque chose qui m'intéresse pour une fois.
Oh my God!
Oui, ça m'intéresse. Il prépare quelque chose qui s'appelle le Clownpocalypse, probablement les trucs avec les clowns. Il y en a pas assez, je trouve.
Clownpocalypse.
tu sais, on a pas mal juste It, je trouve, qui est comme clown épeurant, mais il y en a pas vraiment.
Il y en a d'autres, mais c'est souvent c'est comme au énième degré. Là.
C'est ça. Je pense que si quelqu'un peut faire un clown qui fait vraiment peur, c'est Eli Roth, beaucoup plus que It. Parce que It, c'est quand même soft comme film, on va se le dire.
Mais là, on a-tu comme... Qu'est-ce qui se passe? C'est comme un apocalypse de clown? Qu'est-ce qui se passe?
On sait pas ça va être quoi. Tout ce qu'on sait pour l'instant, ce qui a été annoncé dans Deadline ce matin, c'est que Eli Roth, il s'est associé au scénariste de Rise of the Tomb Raider.
OK.
Donc, très, très, très pertinent comme personne.
OK.
Pour faire Clownpocalypse, qui va être un genre de un projet multimédia. Donc, on parle d'une série, un événement live. Ça, c'est ça qui m'intéresse le plus.
Un événement live?
Un événement live, un film et un jeu vidéo.
Oh!
On parle d'un jeu vidéo potentiellement en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, on ne sait pas encore quoi. Je pense que ça serait plus pertinent de faire quelque chose en réalité augmentée parce que je trouve que la réalité virtuelle, on n'est pas encore rendu à un point où est-ce que c'est intéressant. Mm-hmm. Je m'excuse, controversé comme façon de voir les choses, mais je suis désolée, j'y crois. Fait qu'Eli Roth prépare un gros projet multimédia d'horreur. J'espère que ça va être intéressant parce que moi, de voir quelque chose qui est comme un gros package de même, ça m'intéresse beaucoup parce qu'Eli Roth, il perd des plumes depuis quelques années. Son film, je pense, c'est quoi? C'est Knock Knock, là? Son film avec Ken Reeves.
Ouais.
C'est hideux comme film, c'est pourri, c'est vraiment comme garbage. Exactement. J'espère qu'il va se rattraper avec ça. On va surveiller ça. Ça s'appelle Clownpocalypse.
Est-ce qu'on a une idée de date de parution? C'est encore très en gestation, là?
On parle de commencer la production en 2020.
Ah, OK.
Donc, bon. On est vraiment très, très loin. Mais si vous voulez voir quand même Eli Roth, checker sa filmographie, c'est quand même intéressant.
Ouais, puis pour les gens qui veulent le voir physiquement, il joue évidemment dans Inglourious Basterds, il fait le Joe Bear qui canarde Adolf Hitler à la fin jusqu'à mort sans suivre et qui joue aussi du bâton de baseball et qui fait l'accent de Boston le plus dégueulasse de l'histoire des accents de Boston. Au 7e art, Kasi, merci beaucoup pour ce bulletin de nouvelles, on se sent déjà plus éduqué.
Vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder la chaîne télé Témoin pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
On va passer dès maintenant à un historique des jeux de football, de jeux vidéo, gracieuseté de Raphaël Lavoie.
Il n'y a pas encore sa toune.
Ben, écoute, prochaine étape, on va essayer de vous faire des indicatifs et Raphaël va avoir non seulement sa toune, mais il faudra qu'il découvre aussi Unlock, en fait, le nom de sa chronique. Je vote pour la voix de Raphaël.
Parce que son nom, c'est Raphaël, la voix, faut le mentionner. Moi, j'adorais ça.
Je sais pas, il paraît qu'il se l'est fait faire souvent, fait que je suis pas sûr. Alors, ben, écoutez, on va aussi vous fournir des indicatifs, chère communauté, et vous allez voter avec Raphaël. Vive la démocratie. Raphaël, go team, hot! Parle-nous de jeux de football, s'il te plaît.
Oui, écoute, j'étais bouche bée devant toutes ces belles propositions pour mon autre chronique, mais blague à part, communauté, allez-y de vos suggestions loufoques. J'ai un humour un peu tordu, donc vous pourriez probablement miser dans le mille. Donc voilà, c'est dit.
La commande est passée.
J'aime
vraiment
la distance.
Oui, c'est ça. Puis c'est ça, petite parenthèse, via Skype, là, parce que là, c'est ça, je suis pas pour refaire... La blague, là, je suis pas caché dans un loft quelque part à faire une voix un peu bizarre, là.
C'est tellement drôle qu'à un moment donné, il se lève. Comme, il était caché en dessous de la table pendant tout ce temps-là.
Ben, ça devrait être sa chronique, la chronique du maître.
Oh! Ah. Ou la chronique invisible. Ouais. Oui, Raphaël, excuse-nous, on s'emporte.
Ouais, ben, c'est ça. Ma parenthèse étant qu'avec Skype, j'ai pas toujours le petit. Feedback visuel là, des petits clins d'œil autour d'une table de radio. Donc voilà, des fois on va se parler en même temps, mais c'est des choses qui arrivent.
Hein. En effet.
Ça va peut-être devenir un running gag, hein, on ne sait pas.
Sait-on jamais.
Sait-on jamais. Donc peut-être l'avez-vous remarqué parce que vous êtes un fan de sport, un fan de spectacle de mi-temps un peu malaisant, ou simplement parce que vous avez essayé d'acheter des ailes de poulet cette semaine et vous en avez pas trouvé. Eh bien, c'est le Super Bowl ce dimanche.
Yes!
Et la grand-messe du football américain arrive sur nos écrans dans quelques jours. Et c'est pourquoi j'ai décidé de parler, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'origine et de l'évolution des jeux de football. Et d'emblée, là, quand on regarde ce qui s'est fait au cours des 40 dernières années, on peut dire que c'est assez fascinant de voir la quantité de jeux de football qui sont faits. Donc oui, déjà une quarantaine d'années depuis le premier jeu. Là, vous essayez de calculer. Donc, il faut remonter en 1978 pour avoir le premier jeu qui, d'après vous, arrive sur quelle plateforme?
Un télévision? Non, c'est sorti plus tard, ça. J'ai aucune idée. Je donne ma langue au chat.
Écoute, t'es pas loin, André, parce qu'il y a eu un jeu d'intellivision quelques années à peine après le premier jeu, mais le premier arrive en fait sur arcade et sur l'Atari 2600.
Oh! Donc,
un jeu qui est nommé avec grande justesse, qui se nomme Football.
Minimaliste.
Voilà. Bien choisi, bien
comme baseball vu. Aussi, je pense que c'était baseball.
Et ça aurait été malaisant. Hein? T'achètes un jeu qui s'appelle Baseball, t'arrives, c'est du monde qui porte un ballon. Je suis pas sûr. Mais bon, là, c'est ça. Là, on parle de porter un ballon, toute la patente. On s'entend que Atari Football est un jeu assez minimaliste où les joueurs ressemblent à de petits gnomes. Là, c'est de valeur. Là, vous n'avez pas de visuel, mais je vous invite à chercher Atari Football. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Et ça, c'est de la version console parce que la version arcade, c'est pas vraiment mieux. C'est des joueurs qui sont représentés avec des X et des O.
Ah, barnouche!
Okay. Comme sur les tableaux de stratégie de football.
C'est ça, ouais. Hein?
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, quand même qu'on parle des bases là, des jeux de football, ben ça, c'est vraiment la base. Là. C'est dur de faire en dessous de ça. Donc voilà. Donc, si vous vous demandez l'origine des jeux de football, ben c'est sur l'Atari 2600. Donc, il faut remercier Atari qui, avant de faire des hôtels, faisait des jeux.
Oui, non, oh! C'est un beau lien avec très beau lien avec l'actualité.
Smooth Criminal.
Bravo. Pour les gens qui n'ont pas encore été sur paysurstart.com, en effet, on a annoncé cette semaine que Atari s'est lancé dans un partenariat pour avoir une chaîne d'hôtels, c'est ça, pour les gamers, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, exactement. Là, aux États-Unis, je pense qu'il y en a 7-8. Le premier arrive à Phoenix en 2020. Cette année, là, ce printemps, en fait. Donc, c'est particulier.
Hein, grand
mais
effet.
Si vous allez en visiter un, vous nous ferez signe. Hein. Donc, poursuivons sur le football.
S'il te plaît.
Oui, donc c'est ça. Atari Football 1978, le premier jeu un peu qui explore le concept de football sur console. Et bon, c'est suivi, là, ça lance le jeu. C'est comme le botté d'envoi du football sur console.
Oui.
Il va peut-être y avoir d'autres jeux de mots poche plus tard.
Non, il était bon, il était bon. Moi, je l'apprécie. C'était vraiment bravo.
Ah, ben merci beaucoup. Donc c'est ça. Après, une autre version sur Atari qui est un peu mieux que Atari Football, quelques autres titres sur des plateformes un peu plus oubliées, mais pas pour André, comme l'Intellivision, par exemple.
Yes!
Le genre se démocratise encore plus et c'est la NES qui reçoit son premier jeu de football en 1983 qui s'appelle 10 Yard Flight.
Long jazz.
Je sais pas, ça vous dit quelque chose?
Oui,
10 Yard Flight, oui.
Ouais, donc c'est ça, ça a modernisé un peu le concept, l'action ressemble un peu plus à la vraie patente. Quelques années plus tard, sur la NES, sur la Game Boy aussi, il va y avoir Tecmo Ball.
Oh my God!
C'est un titre pas mal plus connu, beaucoup plus classique. Là, on est rendu environ au milieu des années 80, fin des années 80. Là, vous vous demandez à quel moment John Madden et EA Sports arrivent dans l'équation. Eh bien, c'est à ce moment-là.
Oh!
C'est en 1988 que le joli commentateur et ancien entraîneur donne son nom à un premier jeu développé par EA Sports, donc qui sort sur Commodore 64, Apple II et MS-DOS. Donc,
oh boy! Les belles années, hein?
Ah oui, ben oui, c'est ça. Il fallait quasiment pédaler pour faire marcher son
ordi. Oui, c'est ça, faire marcher son ordi. Mais c'était comme, on dirait que c'était plus précieux le gaming dans ce temps-là. C'était comme tellement difficile.
C'est ça. Hey, j'ai le nouveau Madden. Ah oui, c'est malade sur ton Apple II. Ouais. Ah.
c'est ça.
Donc, c'est ça, exemple de conversation de cette époque-là. Mais en tout cas, donc, premier John Madden, c'est en 88. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, les gens de EA pensaient juste mettre le nom, en fait, de John Madden sur le jeu, puis que ce dernier n'allait pas tant s'impliquer dans le développement. Mm-hmm. Mais c'est lui, John Madden, qui a décidé de s'impliquer un peu plus dans le développement et qui notamment a poussé pour qu'il y ait 11 joueurs dans chaque équipe, en fait, dans John Madden Football. 11 joueurs, ben en fait, c'est le nombre de joueurs qu'il y a habituellement par équipe sur le terrain en même temps dans une partie de football. Les gens d'EA, eux, trouvaient que c'était un peu beaucoup pour la puissance des ordinateurs de l'époque. 22 petits bonhommes, là, c'est du stock.
C'est quand même énorme.
Oui, c'est ça. Mais dans le fond, John Madden a dit c'est 11 joueurs par équipe ou je sors d'ici et il n'y en aura pas de jeu avec ma face dessus. Et bon, on connaît l'histoire, il y en a eu un. Donc, voilà.
C'est assez révolutionnaire quand même à quel point Madden il s'est impliqué dans le développement de ça parce que c'est pas comme un jeune bonhomme gamer.
Non, il n'y a pas la face, c'est ça, d'un jeune PewDiePie.
C'est quelqu'un qui a cru à l'industrie du jeu vidéo à un moment où est-ce que c'était quand même difficile d'y croire. C'est comme, on n'était pas trop sûr. Oui, il y avait un gros boom, là, mais ça faisait pas si longtemps que ça, le crash Atari.
Ben, même, je veux dire, l'entreprise derrière le jeu était comme, ben là, 11 joueurs. Là. Mais non, mais c'est comme ça sur le terrain. Mais là, 11 joueurs. Là. Fait que bravo.
Que ce soit un pépé, ben pépé entre guillemets, qui pousse c'est son... Ouais. Son agenda de football, je trouve ça quand même très cool.
Fait que bravo, Maiden.
Ouais, c'est ça. Surtout qu'à l'époque, là, John avait peut-être cinquantaine avancée. Puisque
c'est
là,
ça.
Je me demandais justement aujourd'hui, John Madden fait quoi ces jours-ci? Ben, il est rendu milieu 80, là, 85, 86. Wow. Là. Donc, probablement qu'il ne fait plus grand-chose. Là. en tout cas, je n'ai pas réussi à trouver ce qu'il faisait, là, parenthèse. Donc, le premier Madden qui a quand même assez bien vendu, là, qui avait un livre de jeu assez complexe comme son interface. Donc, ça a quand même assez bien marché, même si les 11 joueurs par équipe faisaient en sorte que le jeu renaît très lentement, si vous me passez l'expression. Ouais. Donc, les gens d'IA avaient raison. Mais bon, comme n'importe quel concept, ça a pris quelques années un peu pour se placer. Et là, à ce moment-là, il y a eu plusieurs autres entreprises au début des années 90, notamment, qui sont lancées dans cette belle farandole-là. Sega avec Joe Montana Football sur la Genesis,
oui,
entre autres.
Oui, c'est vrai, ça.
On oublie ça, hein, Joe Montana, dans le jeu vidéo.
Ouais. Ça a comme moins marqué un peu. Puis ce qui est intéressant, c'est que le premier Joe Montana Football sur la Genesis était développé par EA Sports.
Oh,
comme Madden.
Théâtre.
Ils ont commissionné, en fait, le jeu. Puis en tout cas, selon ce qui était dit, c'est qu'à l'époque, en fait, EA Sports n'avait que déchaussé un peu Madden et servi un jeu un peu diminué à Sega, qui par la suite, vous comprendrez, a décidé de faire Joe Montana Football ailleurs.
Mm-hmm.
Une chose qui est drôle, c'est qu'à cette époque-là, personne, début des années 90, là, il n'y a personne qui possédait encore les droits de la NFL. Donc, c'était des joueurs qui s'appelaient genre Assassin et des noms un peu agressifs.
C'est justement la question que j'allais te poser. Là. J'allais justement te demander, c'est, mais ouais, quand est-ce qu'on parle de Maiden, on parle de Montana, mais quand est-ce que la NFL arrive là-dedans pour de vrai?
Oui, ben, c'est ça. En fait, c'est en 94 que les jeux ont arrêté d'avoir des équipes bidons. Parce qu'en 94, Madden obtient les droits de la NFL, mais pas des noms des joueurs, parce que là, il fallait passer par l'association des joueurs de la NFL. Mm-hmm. Ça arrive juste un an plus tard. Donc, il y a une année où est-ce que tu pouvais, mettons, jouer, je ne sais pas, avec les Bills de Buffalo, mais tu avais Assassin et d'autres, d'autres joueurs bidons.
Tu avais André
Péloquin.
Hey, pourquoi pas?
André Péloquin comme corps arrière.
J'ai joué sur la ligne défensive des Polypus de Sorel Tracy. Je les salue si ça existe encore.
Et puis là, c'est ça. À partir de ce moment-là, là, l'effervescence là, qui était déjà un peu là poursuit sur sa lancée. Et les jeux se multiplient. Bon, plusieurs autres personnes s'empressent de mettre leur face sur des jeux de football. All Troy Aikman, Mike Ditka, Emmitt Smith, j'en parle. En plus de Montana et Madden. Et c'est ce qui fait un peu le gros de la première moitié des années 90. L'autre évolution arrive en fait avec NFL Game Day développé par Sony, en fait publié par Sony, et qui sort sur la PlayStation 1, qui devient le premier jeu de football à utiliser la motion capture, donc le mocap, comme on peut dire. Donc vraiment à prendre des vrais joueurs et essayer de reproduire les mouvements. Un an plus tard, NFL Game Day, le 97, si ma mémoire est bonne, va signer l'arrivée des graphiques 3D polygonaux dans les jeux de football.
Et
donc, ça brasse.
Ça l'avait glorieux.
Les polygones dans ces années-là aussi, c'était pointu comme polygone.
Hein? Mm-hmm. Lara Croft style.
Oui.
Non, c'est ça. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il était précieux. Il fallait en prendre soin.
Et voilà.
Donc, et voilà. Ensuite, bon, on va... là, c'est à ce moment-là où est-ce que les jeux de football, on arrive un peu dans l'âge d'or. Fin des années 90, début des années 2000, il y a beaucoup de franchises, de nouvelles franchises qui voient le jour. Il y a Blitz de Midway, entre autres, qui étaient des jeux de l'arcade. Super le fun.
Ouais.
Il y a Sega aussi qui décide de retourner dans l'arène des jeux de football avec NFL 2K sur la Dreamcast, puis sur d'autres supports, parce que la Dreamcast a arrêté de supporter grand-chose pendant un moment après la mort qu'on lui connaît.
Malheureusement. Quelle magnifique console. Excusez-moi, je t'ai
dit. Je l'ai encore.
Oh, mon Dieu. Je l'ai tellement aimé. Raphaël, j'espère que je brûle pas de punch. Je veux juste savoir dans ta recherche, dans ton travail là, d'archéologue là, du ballon, là, est-ce que tu t'es intéressé notamment aux dérives un peu comme Mutant League Football, là, qui était un autre produit EA, je crois, si je me rappelle bien.
Ouais, ben écoute, il y en a eu quelques-uns. J'ai essayé de regarder ça. Je suis passé, je te mentirais pas, un petit peu à côté. Mais bon, il y avait celui-là. Il y a NFL Street aussi, qui était sorti pendant un moment. Il y en a eu quelques-uns, mais ça, ce sera peut-être un sujet d'une autre chronique. C'est quelque chose qui me fascine, les jeux de sport qui sont pas associés à une ligue nécessairement et qui sont un peu étranges. Ça, je pense qu'on y reviendra. Ça pourrait être intéressant.
C'est très intéressant. Je t'invite à y
revenir. C'est comme les génériques, C'est comme les génériques de...
C'est ça, les choix du président.
Les choix du président, c'est ça.
Ouais. Puis il faut vraiment que tu aies un concept qui soit intéressant, en fait, puis qui soit un peu différent. Parce que si tu fais juste sortir un jeu de football avec pas les joueurs, pas les équipes de la NFL, mais c'est un jeu de football un peu commun, ben. Je sais pas qui va vouloir aller justement aller chercher le produit jaune sans nom.
Et voilà.
Comme Blood Bowl.
Oui, aussi Blood Bowl.
Et voilà.
En effet.
Puis, je pense que ça va faire, écoute, un beau lien avec peut-être le dernier grand rebondissement du merveilleux monde des jeux de football qui est arrivé à la fin de l'année 2004, alors que EA Sports sentait probablement que le studio se faisait souffler dans le cou un peu avec différentes autres franchises comme NFL 2K qui réussissait quand même à tirer son épingle du jeu parce que bon, Electronic Arts en décembre 2004 a signé une entente exclusive avec la NFL et sont devenus à ce moment-là les seuls à pouvoir utiliser les équipes et les joueurs de la ligue. Donc à partir de ce moment-là, toutes les autres franchises, c'était fini. À moins de faire des jeux génériques, ramener Assassin et les autres joueurs bidons. Écoute, moi, j'aurais aimé ça, André, mais tu sais, il y a quand même un marché à soutenir après ça. Donc, si vous vous demandez depuis quand on n'a pas le choix d'acheter Madden si on veut un jeu de football, eh bien, c'est depuis Madden 2006. Donc, le dernier jeu, par exemple, de 2K était ESPN, NFL Football en 2005, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, les autres franchises sont disparues. Madden est devenu un peu le seul nom sur les tablettes. Et peut-être à partir de ce moment-là, le débat a été lancé. Est-ce que c'est une bonne chose, en fait, que Madden soit tout seul dans ce marché-là? Je pense poser la question, c'est y répondre.
Oui.
Tu sais, la compétition après ça, tu sais, je pense qu'en ce moment, ce qui pousse peut-être EA Sports à essayer de se dépasser d'année en année, c'est en fait que les gens achètent année après année le jeu, même si on l'édition de l'année précédente.
Oui.
Mais après ça, peut-être un peu de compétition ne ferait pas de mal là-dessus. Donc, écoute, c'est ce qui conclut un peu la grande épopée parce que, bon, on peut passer par-dessus, je crois, les dernières années en fin de Madden. Il y a des innovations. On s'entend que c'est pas la même chose que le premier Madden à la fin des années 80. Mais je pense que les gens qui sont intéressés savent que ça a bougé et les autres, sans doute, probablement. Mais si j'ai un peu de temps, je terminerai avec de quoi que je trouve assez amusant que j'ai découvert cet après-midi, puis j'aimerais ça vous partager.
Mais vas-y, Raphaël, vas-y.
Oui, parfait. Écoute, peut-être que vous en étiez au courant, mais il y a un drôle de phénomène, un phénomène Internet, je crois qu'on pourrait dire, qui circule en fait, qui est la malédiction malédiction Madden ou le Madden Curse en anglais. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Je connais le Drake Curse, mais pas le Madden Curse.
Ben, le Madden Curse, en fait, c'est une légende selon laquelle n'importe quel joueur qui apparaît sur la pochette jeu Madden va se blesser dans la saison qui suit.
On avait écrit un article là-dessus. Oui, on a écrit un article là-dessus, me semble.
Eh bien, ça,
totalement.
J'ai momentanément oublié.
Il y a quelqu'un qui voulait pas être sa couverture. Oui, on en a parlé.
Il y a quelqu'un qui voulait pas être sur la couverture.
Je vais laisser Raph continuer son histoire.
Ben, en fait, c'est ça. Si t'es superstitieux, j'imagine que tu veux pas nécessairement te retrouver sur la pochette d'un Madden, parce que reste que c'est un bel honneur malgré tout. Mais écoute, pour les fans de statistiques, Digital Trends ont fait un petit top, une petite analyse cet automne. Et depuis le début-ish, là, si vous voulez, de la malédiction en 1998, où est-ce que le premier joueur, qu'il y a eu un premier joueur qui s'est blessé, qui a apparu aussi sur une pochette de Madden, ben depuis 98, 16 des 22 joueurs auraient souffert de la malédiction.
Ah,
16!
Ouais. OK.
Ouais, c'est vraiment...
C'est énorme.
Puis on sait que les joueurs de football aussi, puis tout ce qui entoure le football est très superstitieux aussi.
Oui.
On connaît la même chose pour le hockey ici. Pendant les séries, les gens font pousser leur barbe. C'est la même chose aux États-Unis. Ils lavent pas leur dossard. Donc, c'est vraiment comme, pas les joueurs, mais les fans lavent pas leur dossard parce qu'ils ont peur. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de superstitions autour du sport. Parce que, tu sais, veux pas les exploits sportifs. On a l'impression qu'il y a un peu de magie derrière ça aussi, derrière la force du corps humain, tout ça, puis c'est magique. Moi, ça m'étonne pas qu'il y ait autant de superstitions autour de ça, surtout quand les statistiques sont pas comme... C'est pas très prometteur, là, tu sais.
En effet.
Mais... Non, c'est ça. Si tu suis ça, ça t'enlève un peu le goût. Puis, pour faire le lien, en fait, avec le Super Bowl, ce qui est quand même assez drôle, c'est que le corps arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, est toujours sur la pochette de Madden 2020. Et il s'est blessé en début de saison.
Et voilà.
Donc, heureusement, pour les Chiefs, il est revenu au jeu après quelques semaines d'inactivité. Bon, comme on le sait, les Chiefs avec San Francisco, les deux équipes se retrouvent au Super Bowl. Mais quand même, c'est assez drôle toute cette histoire-là de malédiction de Madden.
Et, merci beaucoup, Raphaël. Le football n'a plus aucun secret pour nous. On va passer dès maintenant à vos réponses à notre question débat sur quel est votre plus grand exploit de gamer. Merci Richard Séguin pour cet interlude. On commence en force avec Kalanar sur notre chaîne Twitch lors de la diffusion qui nous a dit qu'il a déjà été dans le même clan de gaming que l'ancien guitariste original In Flames, Jesper Stromblad, dans COD 1. Et que c'est mine de rien, ce lien-là avec cet artiste lui a valu des billets VIP à l'époque qu'il était dans le groupe. Alors ça a quand même des belles retombées, l'amitié électronique. Toi, Kasi, est-ce que tu as un exploit de gamers qui te vient en tête?
Non, parce que je suis pas bonne. Je suis pas bonne en gaming. Je suis pas quelqu'un qui va chercher tous les trophées, qui est completionniste. J'aime beaucoup chercher dans tous les petits recoins les choses, puis ramasser des choses que je peux supposer ramasser. Mettons, Breath of the Wild, j'aime ça, attraper des poissons au lieu d'aller tuer Ganon. OK. Ça, c'est. Je suis une gamers gosseuse. C'est pas le fun de me regarder jouer. Moi, j'ai du fun, c'est ça qui compte. Pour moi, un exploit dans un jeu vidéo, c'est d'avoir un plaisir que tu peux pas matcher avec une autre activité, avec un autre film, avec un autre jeu. C'est ce jeu-là qui t'a fait triper au bout. Moi, je parle de des Last of Us, des Red Dead Redemption. Pour moi, ça, c'est des exploits d'avoir terminé ces jeux-là, ou c'est tout simplement d'y avoir joué, puis d'avoir dédié une certaine partie, tu sais, quand même une grosse bouchée de temps.
Ben oui.
Dans ces jeux-là, parce que Last of Us, c'est un peu moins, il est pas mal moins long, mais Red Dead Redemption, on s'entend que c'est une campagne très, très longue. On parle d'une soixantaine d'heures. Là,
ah, mon Dieu.
C'est très, très long. Ça, en soi, c'est un exploit, je pense, pour tous les gamers qui terminent les jeux. D'ailleurs, petit clin d'œil, on a un article cette semaine qui est en ligne de 8 jeux qu'on n'a pas eu le temps de finir.
Dont Skyrim.
dans Skyrim.
C'est gênant. Je l'ai acheté sur 3 ou 4 plateformes et je l'ai toujours pas fini.
Exactement. J'ai allé sur plusieurs plateformes aussi. J'ai acheté The Witcher récemment. Je suis pogné dans un donjon puis je suis comme, tente pas. Parce que le bonhomme, je suis pas capable de le battre. J'ai même changé mon niveau de difficulté. Non, pas capable. Sinon, moi, c'est ça. Les exploits, c'est surtout en heures. Planet Coaster, Planet Zoo, c'est le nombre d'heures points que j'ai dans ces jeux-là.
Et ça ressemble à quoi là, pour Planet Zoo? Là?
Planet Zoo, en ce moment, on est dans 100... Peut-être 200 heures, peut-être.
OK, c'est un exploit. Bravo. Félicitations.
Mais un exploit pour un jeu qui est comme très récent, tu sais.
C'est ça.
C'est un jeu récent. Stardew Valley, on parle de 500 heures.
Tabarnouche.
Parce que je fais souvent d'autres activités quand je regarde la télévision.
C'est un jeu qui t'accompagne.
Exactement. J'ai pas été dans des équipes sportives. J'ai pas fait des trucs comme ça. Une autre petite chose que je veux mentionner, moi, c'est un exploit pour moi, c'était d'avoir formé des amitiés à travers du jeu vidéo.
Ah, c'est beau.
Ouais, moi, je me rappelle au secondaire, je sais pas s'il regarde, bonjour Martin, un de mes amis, son nouveau nom, c'est Ray, on l'appelle Ray maintenant.
D'accord.
C'est son nom d'Internet cool. Je me rappelle au secondaire 1, je me suis fait des amis dans la classe parce qu'on parlait de jeux vidéo un peu.
Mm-hmm.
Quand j'étais en secondaire 3, à un moment donné, il y en a un qui a dit, hey, tu veux-tu venir chez nous, on va jouer à Half-Life. On va jouer à Counter-Strike Half-Life avec une gang de personnes chez nous. Ça tente-tu de venir? Puis j'ai fait comme, oh my God, j'ai des amis.
Ah.
J'avais déjà des amis comme mes girlfriends.
Ouais.
Puis j'avais comme ma double vie où est-ce que j'allais chez des petits garçons puis on allait jouer à des jeux vidéo ensemble. Puis après ça, je prenais l'autobus. T'sais, je restais pas tard. Tu sais, comme mettons, on finissait l'école à 3h30 dans le temps. Je restais là jusqu'à, mettons, 4h30. Puis après ça, je prenais l'autobus jusqu'à chez nous. Ça, c'est le plus bel exploit du jeu vidéo possible, c'est les amitiés qu'on se crée à travers eux.
Ah, t'as l'air, je suis allé détourner la question pour en faire quelque chose de vraiment mignon. Bravo, Kasi.
Je suis adorable.
Et toi, c'est vrai. Et toi, Raphaël, ton exploit là, de gamer, ça serait quoi? Là?
Ben, c'est vraiment difficile de passer après Kasi parce que, mon Dieu, Kasi, quel beau témoignage.
Ah, c'est un classique.
Poète.
Hein?
Vraiment. Écoute, moi, je vais reprendre un peu une partie du témoignage de Kasi dans le sens que je termine très rarement des jeux. Moi, je suis quelqu'un qui va jouer à 10 jeux en même temps et qui, soit par frustration ou désir de ne pas finir un jeu que j'aime, ne les finit tout simplement pas. Fait que quand je réussis à dire « OK, j'ai réussi à mettre assez d'heures dans un jeu pour le boucler et le finir », ben pour moi, c'est un exploit. Ça
ouais,
arrive malheureusement pas si souvent que ça.
je suis entouré de joueurs de passion. C'est beau à voir. Sur Internet, on a des personnes qui nous ont répondu aussi. Il y a Kevin H. qui nous dit notamment que Saron sans mort, c'est zéro dette de Super Mario Bros. 1, sans champignons en 6 minutes 21 seconde est pas mal mon pic. Je pourrais faire mieux,
wow,
mais je préfère rester sain d'esprit. Bravo.
Speedrunner.
Bravo, Kevin. Sinon, il y a Mr. White Keith qui nous dit « Mon exploit, faire la mission de l'hélicoptère téléguidé dans Grand Theft Auto Vice City. » Et il y a aussi notre réalisateur Philippe qui voulait y aller de son propre exploit aussi. Philippe, c'est quoi ton exploit?
J'en ai d'ailleurs quelques-uns, mm-hmm, dont le plus récent, je dirais, que ça serait de finir Getting Over It plus de 50 fois.
C'est wow, vrai, je l'ai vu faire.
Pour les gens qui ont jamais joué à Getting Over It, c'est le jeu où est-ce que tu es dans une espèce de
marmite
avec un marteau, puis tu essaies de monter, puis c'est vraiment tough, puis Kasi nous l'a fait essayer lors d'un Facebook Live et il y a eu beaucoup de jurons lancés en ligne. Là.
Toi, c'est quoi une vingtaine de minutes que tu le fais?
Je me rappelle plus exactement c'était quoi mon record. Le record Guinness, genre le plus rapide, je pense c'était comme, je sais pas, ça doit être en bas d'une minute là.
Ouais.
What? Mais,
ouais, quelque chose comme ça, c'est complètement ridicule.
Mais non, on triche rendu là.
Oui, non, c'est des glitches, c'est des any percent. Fait
ouais,
que
okay, ouf,
c'est,
okay, ouais, ouais, ouais. D'accord, wow.
C'est soit des any percent ou des tasses là.
Ouais, c'est
mais
ça.
Toi, tu le fais à 100%?
Moi, je le fais à 100% en bas de 10 minutes là.
Quand même, bravo. Ouais. Je t'admire encore plus.
Il a d'ailleurs terminé en direct sur twitch.tv/paysurstart.
Ouais.
Abonnez-vous.
Ouais, c'est vrai. Et à part de ça, si je remonte un petit peu en arrière, en 2016, je crois, j'ai gagné une compétition de Team Fortress 2.
OK.
C'était une compétition à l'intérieur, au sein d'une entreprise.
OK.
Il y avait je pense que c'était comme 4 ou 5 équipes de 4 joueurs au sein de l'entreprise, puis notre team a gagné.
Est-ce qu'il y avait un prix avec ça pour la compagnie, ou outre le respect de tes collègues?
On a eu notre nom mis sur une petite plaque.
Ben, c'est bien.
Sur une plaque qui s'est faite partager entre les gagnants. Et si je remonte encore plus loin que ça, j'ai gagné une compétition de Super Smash Bros. Au secondaire.
GameCube?
Sur la GameCube.
Ah, yes, ben, moi, le meilleur.
Ouais, ouais, ouais.
C'est le meilleur.
Ben, bravo, mon Dieu, on est entouré de pros ici.
Vraiment? Toi, ouais. André?
Mon Dieu, je suis bon à Broforce. C'est tout ce que
c'est
je
veux dire. C'est vrai que t'es bon à Broforce. D'ailleurs, tu y as joué sur Twitch au début de notre chaîne.
Oui, twitch.tv/pinsurstart. Abonnez-vous.
Abonnez-vous.
Et oui, ben c'est ça. Je suis bon à Broforce, mais sinon, j'ai pas vraiment d'exploit à XCOM. Je suis patient aussi. Je sais pas quoi vous dire, être bien entouré avec Kasi, avec Philippe, avec Raphaël. Des fois que les mousses, à part être bien entouré, je n'ai pas beaucoup de grandes qualités de joueur. Alors, ben mon Dieu, ça fait...
J'ai quelque chose à ajouter.
Vas-y.
Je pense qu'il y a un exploit que tout le monde qui est dans cette salle et par intercom peut confirmer d'avoir transformé notre amour pour le jeu vidéo en job.
Oh!
Hey, ça, c'est le level up du level up.
Quand même. On fait beaucoup de jalouses et de jaloux en ce moment.
Puis on profite de chaque seconde. On tient à vous le dire, on gaspille pas notre temps.
En effet. Kasi est à l'article de la mort en ce moment avec sa toux virale, mais elle est quand même là.
Je suis là, les amis.
À nous infecter avec son virus qui s'appelle...
Avec mon virus coronavirus.
Mon Dieu, j'en reviens pas qu'on a pris une question de débat et on a transformé ça en moment pour s'aimer, là, en love-in. Là. Bravo. Give peace a chance. On va poursuivre dès maintenant sur cette belle note avec la conclusion de cet épisode. Tout d'abord, on remercie notre réalisateur Philippe Séguin ainsi que Gabriel Meunier de Cube Radio. C'est ça, on peut nous entendre à chaque semaine, les mercredis, sur le twitch.tv/paysurstart en direct, la version longue et un peu plus coquine, et ainsi que les vendredis sur la plateforme Cube ainsi que sur tous les autres dérivés podcasts. Là, cherchez-nous, on est là, Stitcher, Google, Apple, patati, patata. Spotify, oui, aussi, c'est vrai, Spotify aussi. On est live presque quotidiennement, en fait, sur twitch.tv/paysurstart, c'est souvent quasi d'ailleurs qui s'évertue là-dessus. Merci beaucoup.
On joue à Plague ces temps-ci.
Et voilà, on est dans l'actualité. Aussi, on est un site web, évidemment, paysurstart.com. On est aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram. On a aussi un serveur Discord. On est sur Twitter, on est sur Facebook. Cherchez-nous, vous allez nous trouver. Nous sommes la belle petite manette. C'est ça, notre logo. On est aussi en papier. Là, à chaque mois, quasi et notre collègue Christine, qui est absente aujourd'hui, et c'est tant mieux, anime une chronique qui s'appelle Game Balloon.
Quel nom extraordinaire.
En effet.
Ça vient pas de nous, je tiens à le souligner, parce qu'on n'est pas assez drôle.
En effet. Et c'est eux autres qui écrivent. Ils font des portraits de geeks, aussi des nouvelles d'actualité. J'ai le goût de pointer vers un scoop. Je sais pas si on va se faire taper sur les doigts. Mais tu sais, pour les gars qui sont le Game Balloon, qu'est-ce que j'en ai à faire? Messieurs.
Attendez la prochaine.
Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous, je pense. J'en dirai pas plus pour le moment, mais on a reçu un courriel, ma foi, fort intéressant. Aussi, à chaque jeudi, on est dans les pages du 24 heures, où est-ce qu'on anime une autre chronique. C'est la chronique Pays sur Start, parce qu'on vous sort des événements geeks des prochains jours, ainsi que des portraits de personnalités qui nous parlent de leur passion geek ou de geeks qui nous parlent tout simplement de ce qu'ils font dans leur vie. Et ce jeudi, c'est Kasi qui nous a fait cette entrevue-là. C'est ma foi, fort intéressante. Avec qui t'as jasé, Kasi?
C'est Victoria Charlton. Moi, je dis toujours Charlton, mais c'est Charlton. Mm-hmm. Une YouTubeuse très, très intéressante et maintenant auteure.
Oui, en effet, qui aborde le true crime, c'est ça?
Le true crime.
Hey, c'est quoi? 300 000 abonnés sur YouTube?
Ah, c'est 300 000 en montant.
Hey, c'est tellement plus que moi, c'est incroyable. Alors, c'est ça, cette semaine, dans les prochains jours, vous pourrez lire notre entrevue avec cette dame qui nous raconte tout sur le true crime et son impact grandissant au Québec. Pour nous rejoindre, si vous êtes plus ce courriel, info@paysurstart.com. Je m'appelle André Péloquin, j'étais en compagnie de Raphaël Lavoie. Merci Raphaël.
Merci à vous.
Et de Kasi Sharb.
Hey hey!
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Pays sur Start. Salut tout le monde! Pays sur Start!